Bonjour à toutes et à tous. Merci de me donner la parole et de m'accueillir, effectivement. Je travaille à la division production ingénierie hydraulique d'EDF. J'ai pris ces fonctions récemment, ou du moins les fonctions qu'avait auparavant quelqu'un que vous connaissiez peut-être, ou connaissez peut-être, Didier Meyerfeld. Voilà, donc j'ai pris sa suite il y a quelques mois de cela. Voilà, donc je suis vraiment heureux d'être là, découvrir Brioude et donc tous les travaux qui ont été menés et toutes les présentations précédentes. Quand j'ai préparé cette intervention, j'ai échangé avec Roberto Eplé. Roberto Eplé m'a dit ça serait peut-être pas mal à cette occasion-là que vous puissiez répondre à une question, celle qui est là. Le nouveau Poutest, est-ce que c'est un changement de politique ou est-ce que c'est un cas unique? Donc je vais essayer de répondre à cette question. Voilà, pour ça, donc j'ai prévu de vous parler rapidement du nouveau Poutest. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour différentes raisons, je vous le dirai tout à l'heure. Une transition sur l'hydroélectricité et l'action d'EDF en matière d'environnement et vis-à-vis de la problématique piscicole, et puis la nouvelle ambition environnementale d'EDF, qui du coup ponctuera ma présentation. Alors, le nouveau Poutest. Ce qui me semble important de dire, moi, quand j'ai pris connaissance de ce dossier, ce qui m'a marqué, c'est finalement de me rendre compte que sur ce projet-là, on a essayé d'avoir comme objectif de concilier des enjeux qui, a priori, vu de loin, peuvent paraître assez contradictoires, et donc des enjeux énergétiques et enjeux piscicoles. Dans tous les cas, c'est des enjeux qui, de longue date, apparaissent comme contradictoires. Et donc le travail qui a été mené, sans rentrer dans le détail, est un travail sur, au fait, la production d'électricité sur cet aménagement, comment on peut adapter les choses et comment on peut trouver des solutions innovantes en matière de production d'électricité et d'hydroélectricité. On a couplé ça, bien évidemment, aux aspects migration piscicole, et on n'a pas oublié de regarder, vous n'avez pas oublié de regarder le volet hydromorphologie et la gestion sédimentaire. Alors, autre point essentiel, me semble-t-il, dans la démarche, c'est que c'est une démarche collaborative, j'allais dire de partenariat, dans tous les cas d'échange. En fait, quand on regarde un petit peu l'historique, je ne vais pas remonter à la Révolution française, mais quand on regarde les 10 dernières années, on se rend compte que sur cet aménagement, notamment, on était sur des positions inconciliables entre EDF, les élus, les ONG, enfin les différentes parties prenantes. Tellement bien que toute idée qui pouvait être avancée lors de cette période, hein, dans les débuts des années 2000 notamment, eh bien finalement n'arrivait pas à aboutir, même s'il y avait des choses intéressantes probablement à ce moment-là. Les premières études alternatives en 2010, d'ailleurs, n'ont pas abouti. Et puis il y a un moment clé, me semble-t-il, quand je regarde un petit peu l'historique. C'est en mai 2011, il y a une collaboration technique qui se met en place avec la rédaction d'un cahier des charges environnemental, donc avec des objectifs environnementaux, et donc avec des acteurs clés qui sont l'État avec la direction de l'eau et de la biodiversité et l'ONEMA. Donc autour de ce nouveau cahier des charges, il y a finalement cette démarche collaborative qui se met en place, et donc il y a la reprise des études techniques. Il y a notamment la collaboration avec l'ONEMA. Dans tous les cas, c'est ce que je vois quand je prends connaissance du dossier. Et courant 2011, il y a une émergence d'une solution qu'on peut qualifier clairement d'innovante et qui permet de répondre au cahier des charges environnementales. Voilà, donc cette proposition technique est acceptée par l'ensemble des parties prenantes et permet donc un accord de principe de l'État. Vous voyez, ça va très vite. Hein. Courant 2011, les choses se débloquent très rapidement. Il y a la création d'un comité technique piscicole. Là aussi, ça me semble être un élément tout à fait intéressant et important. Ce comité technique piscicole, d'ailleurs, qui préexiste, hein, qui permet de travailler sur les aspects techniques, sur les enjeux piscicoles, sur les modalités d'exploitation du barrage, et qui permettra tout au long du processus d'accompagner le volet technique, non pas par EDF seul dans son coin, mais effectivement avec différents acteurs. Et puis il y a donc, sous l'égide de Monsieur le Préfet, un comité de pilotage qui permet, là aussi, de suivre et de vraiment piloter le programme sur sa durée, avec donc les élus, les services de l'État, les ONG, les pêcheurs et le concessionnaire EDF. Voilà, donc les objectifs également, En fait, quand je dis c'est une démarche collaborative environnementale, ce qui est important, je pense, de noter, c'est qu'il y a des objectifs, mais des objectifs de résultats de cette démarche. Et du coup, le comité de pilotage permettra effectivement de regarder ces résultats et de juger si les objectifs sont atteints ou pas. Donc ça, c'est également une démarche tout à fait intéressante de mesurer le résultat au bout du compte. Si les résultats ne sont pas atteints, ce qui est prévu dans le dispositif, c'est ce que j'ai appelé là un plan B, eh bien, en cas de non-atteinte des objectifs, il y aura un dispositif avec la mise en transparence du barrage. On va voir quelques photos juste après. Voilà, donc vous l'avez compris, démarche collaborative, point me semble-t-il essentiel, innovation technique, deuxième point complètement essentiel. Donc là j'ai quelques photos, je ne vais pas rentrer dans le détail, Sylvain Lecuna cet après-midi, hein, donc, qui est chef de projet Poutest, va tout nous expliquer sur ce projet, hein, avec des illustrations à l'appui. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, là vous avez l'état actuel, avec donc les trois vannes segments et puis les aménagements de franchissement piscicole. Et puis, mais j'ai vu que c'était dans la montagne ce matin, vous avez donc cette même photo donc finalement de la situation projetée avec donc les dispositifs de montaison, de dévalaison et puis donc les clapets qui permettent, les voici de plus près, de travailler sur les aspects morphologie et mise en transparence. Alors, quelques mots sur les prochaines étapes. Sans rentrer dans le détail, il y a des étapes, je dirais, que je vais qualifier d'administratives. Instruction de dossier de renouvellement de concession, instruction du dossier d'exécution. Il y a des étapes techniques, des études, avant-projet détaillé. Et puis, il y aura bien évidemment les étapes, je dirais, opérationnelles sur le terrain, qui passent par donc un dossier de consultation, attribution de marché, et des travaux, bien évidemment. Et ce qu'il faut noter, c'est que, en attendant la mise en service, eh bien, on met en œuvre une convention de gestion transitoire, c'est-à-dire que les modalités d'exploitation de l'ouvrage ont déjà été modifiées, tant aussi bien au niveau du débit réservé que des modalités d'exploitation proprement dites. Et il y a également un suivi scientifique qui a été activé, je crois, en début d'année, et qui permet de faire au moins les états zéro et de travailler sur tout un dispositif qui permettra aussi au site de Poutès d'être un. Au fait, est-ce que c'est un changement de politique? Il me semblait important de rappeler les atouts de l'hydroélectricité. Alors, il y a des atouts que vous connaissez déjà, dont on vous a déjà parlé, probablement Didier vous en a déjà parlé, mon prédécesseur. Donc, énergie renouvelable, bien sûr, sécurité du système électrique, bien évidemment. Il faut savoir que sur les pointes de consommation hivernales, notamment les pointes du matin et du soir, deux tiers de la production provient de l'hydroélectricité sur ces pointes-là. Donc ça, il faut avoir ce chiffre-là en tête. C'est un élément tout à fait prépondérant. Autre élément à bien avoir en tête, c'est que l'hydroélectricité permet le développement des énergies renouvelables dites intermittentes, c'est-à-dire l'éolien, le photovoltaïque. Quand le vent tombe, eh bien, le seul outil de production qui permet de prendre le relais d'une éolienne, c'est l'hydroélectricité, puisqu'elle est réactive et elle permet ça, elle stocke également l'énergie par la retenue en eau. Et puis il y a deux points qui me semblent tout à fait centraux, c'est la gestion multi-usage de l'eau que l'on opère depuis maintenant pas mal de temps. Là aussi un chiffre, chaque année, le concessionnaire EDF met à disposition de la collectivité 1 milliard de mètres cubes pour satisfaire ce multi-usage de l'eau. Et dernier élément, tout à fait central, l'hydroélectricité en général dans des zones rurales et contribue très largement au développement de territoires, au maintien d'une activité sur les territoires. C'est un point tout à fait central, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, les actions réalisées en matière d'environnement pour ce qui concerne EDF, on les connaît. Il y a eu beaucoup de constructions de passes à poissons. J'en ai comptabilisé une centaine donc de passes à poissons sur les aménagements. La modification d'exploitation de certaines centrales. De nombreuses études scientifiques. François Trabat qui est là ne démentira pas un fort investissement en recherche et développement. Et de nombreux partages d'expériences avec vous et avec également des instances et des partenaires internationaux. Alors, au-delà de ce qui a déjà été fait, ce qu'il faut avoir en tête, et c'est tout récent, c'est que la direction, le comité de direction de la division production ingénierie hydraulique, d'EDF, a acté le fait qu'on souhaitait mettre en place ce qui a été appelé une nouvelle ambition environnementale pour EDF en matière d'hydroélectricité. Alors on part sur trois points essentiels, qui sont de dire finalement le métier d'hydroélectricien d'EDF, c'est certes produire de l'électricité, mais c'est également un métier de développeur dans les territoires, et ça c'est tout à fait essentiel, c'est une prise de conscience récente, même si ça fait bien longtemps qu'on mène cette action-là, et c'est un gestionnaire de l'eau et des milieux aquatiques. Et derrière, il y a des choses autour de la biodiversité, notamment. Voilà, d'où l'engagement avec cette ambition environnementale. Alors comment, en deux mots, tout d'abord, on veut vraiment poursuivre l'action engagée et vraiment placer la connaissance des milieux, de la gestion de l'eau, de la biodiversité au cœur de l'action pour limiter les impacts de l'hydroélectricité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on veut s'intéresser à l'ensemble des paramètres qui conduisent à une ambition environnementale, donc pas uniquement le volet poisson, pas uniquement le volet gestion de l'eau, mais également hydromorpho, mais également biodiversité. Et donc concilier et travailler sur ces quatre domaines en parallèle. On veut agir à l'échelle du territoire, souvent c'est le bassin versant, et on veut poursuivre cette action-là. On veut travailler avec les parties prenantes, c'est tout à fait essentiel. C'est très lié à l'action sur le territoire et on veut développer les partenariats. On en fait déjà, on a déjà des partenariats, on veut développer ces partenariats. Autre élément pour mettre en place cette ambition environnementale, c'est impulser l'innovation technologique. Poutès est un bon exemple en la matière. On veut vraiment aller vers une innovation technologique sur ces aspects-là. On veut progresser sur un concept d'empreinte eau. On a pris un engagement au dernier forum mondial de l'eau pour travailler sur cette idée, ce concept d'empreinte eau pour l'hydroélectricité. Et on va être à l'initiative d'observatoires qui nous permettront de mesurer le bénéfice environnemental des actions que l'on met en place. Et puis dernier point, tout ça ne se fait que si on poursuit, on amplifie l'action vis-à-vis d'une culture environnementale dans nos équipes. Il y a des jeunes dans la salle, il y a des moins jeunes. Je partage complètement ce qui a été dit. C'est très important d'améliorer, de porter la culture environnementale. Et donc, on travaille dans ce sens-là. J'étais précédemment dans des emplois de RH et je sais de quoi je parle. Voilà, donc en résumé, le nouveau Poutès, changement de politique au cas unique, vous l'avez compris, c'est clairement un cas unique parce qu'il y a des spécificités liées au nouveau Poutès, mais ça s'inscrit clairement dans une volonté de la direction de la division d'aller vers un changement de politique, une ambition environnementale. Je vous remercie.